Vous êtes sur RTL.
Place à RTL Soir avec vous, Christophe Paco. Bonsoir.
Merci,
Christophe.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans RTL Soir pour 2 heures d'informations tous ensemble en ce 11 novembre. Et la crainte encore et toujours de la 5e vague de Covid, qui se fait d'ailleurs de plus en plus pressante chez nos pays voisins comme en Allemagne, avec de nouvelles mesures de restriction, une contamination qui progresse jour après jour. Et puis aux Pays-Bas, on évoque même un confinement possible de 2 semaines. Et puis près de chez nous en France, des derniers chiffres là aussi qui ne laissent pas indifférents, avec un taux d'incidence qui grimpe et qui atteint ce soir les 44%. Et puis dans une demi-heure, on va donc s'intéresser aux premières données chiffrées concernant les hospitalisations en France dans le secteur public comme privé sur l'ensemble de l'année 2020, pour bien être précis. C'est le premier vrai rapport du genre. Seuls 2% de ces hospitalisations seraient liées à l'épidémie. À première vue, c'est peu. La brigade santé d'RTL a décidé de mener l'enquête pour décrypter ce bilan surprenant. Mais pas tant. Mais sans plus tarder, les autres grands titres de l'actualité avec vous, Marion Calais. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Les commémorations du 11 novembre et l'adieu à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération. Il repose désormais au Mont-Valérien. Dans ce journal aussi, les dénégations d'Aminata Diallo en garde à vue après l'agression d'une de ses coéquipières du PSG. Et puis le nouveau coup de pression de la Biélorussie. Alors que l'Europe souffre déjà de la hausse des prix du gaz, Minsk menace de fermer les vannes d'un gazoduc. Les courses dans le Quintet Plus à Toulouse. Aujourd'hui, il fallait jouer le 4, le 3, le 13, le 16, hélas.
Et cette question dans RTL Soir tout à l'heure, métamorphose ou déchéance, où va la France? C'est le titre choisi par le sociologue Michel Viviorca pour parler avec nous ce soir de ce pays, de notre pays politiquement capable ou pas de faire face aux grands défis d'aujourd'hui. Il sera notre invité d'ici un quart d'heure maintenant. 18h40, comme chaque soir, on va défaire le monde avec toute votre équipe. Cyprien Signy au sommaire ce soir.
Ce soir, focus sur le Made in France. Vous découvrirez que malgré les apparences, le concept reste quand même flou. Au menu également, la grosse boulette du frère d'Elon Musk, les vieux pantalons de l'armée française et la seconde vie de vos chaussures de sport.
Très bien, tout à l'heure 18h40 et puis juste avant de défaire le monde, laissez-vous tenter dernière ce soir en compagnie de Julia Molcou. Nous passerons un petit coup de fil à Patrick Bruel qui vient de débuter une longue, très longue tournée acoustique. Et puis rendez-vous à 19h15 comme tous les soirs de la semaine avec Eric Brunet, ses polémistes pour refaire le monde. Sans oublier dans ce journal des points réguliers sur votre météo, juste au-dessus de chez vous, sur votre ciel bien sûr, juste en face, la tendance pays broche.
Bonsoir Christophe, globalement demain ensoleillé sauf près de la Méditerranée et le Nord-Ouest.
Merci, on vous retrouve pour des points réguliers évidemment pendant toute cette édition jusqu'à 20h.
RTL Soir,
le journal, Christophe Paco, Marion Calais.
Et aujourd'hui donc, la France a dit adieu au dernier des compagnons de la Libération.
Bien plus que l'armistice, ce 11 novembre a surtout été l'occasion de rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la France. Comme Hubert Germain, mort il y a un mois à l'âge de 101 ans. Un adieu en deux temps que vous avez suivi pour RTL. Brice Dugénie, bonsoir.
Bonsoir.
Avec d'abord une cérémonie sous l'Arc de Triomphe.
Oui, ce matin au pied de l'Arc de Triomphe, le cercueil d'Hubert Germain est arrivé sur un char du nom de Bir Hakeim. Bataille décisive de 42 dans le désert libyen, où Hubert Germain et ses compagnons se sont illustrés, un engagement salué par Emmanuel Macron.
Serions-nous là sans Hubert Germain? À 20 ans à peine, il quitta tout pour gagner Londres et bientôt se couvrir de gloire à Bir Hakeim. Serions-nous là sans Philippe Leclerc de Haute-Cloque, résistant de la première heure? Serions-nous là sans Philippe Kieffer, sans René Cassin, Jean Moulin, Jacques Chaban-Delmas, Romain Gary et André Malraux, tous était compagnon.
Puis fidèle à sa vision de la France éternelle, le président de la République a souligné que l'ordre de la Libération continuera de vivre pour transmettre aux enfants de France le sens de l'engagement de ceux qui se sont battus pour un idéal.
La suite s'est déroulée, Brice, dans un cadre beaucoup plus intime, au mémorial de la France combattante au Mont-Valérien.
Oui, sobriété et recueillement. Seuls la Marseillaise et le chant des partisans sont venus rompre le silence du Mont-Valérien. Comment ne pas penser au 18 juin dernier où Hubert Germain était venu une dernière fois dans son fauteuil roulant sous un soleil de plomb commémorer l'appel de son modèle, le général de Gaulle. Aujourd'hui, son cercueil sous un drapeau bleu-blanc-rouge éclairé d'un soleil d'automne a fait son entrée dans la crypte du mémorial. Un caveau attendait le dernier compagnon. Le président de la République est apparu très ému. D'un geste a essuyé une larme à l'arrivée de la députée. l'époux d'Hubert Germain. Puis il a déposé sur son cercueil une croix de Lorraine. Le dernier compagnon repose aux côtés de 16 autres combattants de la France libre. Au-dessus de leur cercueil est gravée cette phrase. Nous sommes ici pour témoigner devant l'histoire que de 1939 à 1945, ses fils ont lutté pour que la France vive libre.
Récit de cette journée d'hommage signée Brice Dugénier pour RTL.
Emmanuel Macron toujours enroué, hein, on l'a entendu, à cause d'un rhume, explique l'Élysée, qui poursuit maintenant sa journée à la Grande Halle de la Villette pour la 4e édition du Forum de Paris sur la paix, où il sera largement question cette année des enjeux liés au numérique. Ça ressemble clairement à une 5e vague, ça c'est ce que disait hier le ministre de la Santé. Et bien ce soir, on a les derniers chiffres de Santé publique France.
Oui, et il confirme la reprise épidémique, Odile Pouget, bonsoir.
Bonsoir.
La semaine dernière, le taux d'incidence, depuis la semaine dernière en tout cas, a progressé de 44% dans l'Hexagone.
Oui, on est actuellement à 90 cas pour 100 000 habitants, c'est la moyenne nationale. On était à 62 fin octobre. L'augmentation touche toutes les régions et dans 21 départements, notamment la Vendée, les Bouches-du-Rhône, le Nord ou encore l'Aveyron. Eh bien, on dépasse la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. C'est deux fois plus que le seuil d'alerte. Chaque jour, en moyenne, plus de 7200 nouveaux cas sont diagnostiqués. Toutes les classes d'âge sont concernées, mais particulièrement les 20-49 ans. Du côté des hospitalisations et des admissions en réanimation, la tendance est assez stable, mais ce ne sont pas des données fiables à 100% compte tenu des remontées d'informations plus lentes en raison du jour férié du 1er novembre. Actuellement, 6700 patients sont hospitalisés pour Covid et un peu plus de 1100 sont en soins critiques.
Merci Odile, vous restez avec nous puisqu'on vous retrouve dans un quart d'heure maintenant pour la brigade RTL. On va revenir sur ce bilan chiffré qui laisse un peu perplexe quand même. Seulement 2% des patients étaient des patients Covid pendant l'année 2020 dans les hôpitaux. Marion Calais.
Cette reprise constatée en tout cas dans différents pays d'Europe, un record de contamination aux Pays-Bas et en Allemagne, l'Europe qui aujourd'hui a approuvé la mise sur le marché de 2 traitements par anticorps.
Un groupe secoué et toujours cette question ce soir, la joueuse du PSG, Kaira Amraoui, a-t-elle été victime d'un coup monté au sein de son club ? L'enquête se poursuit.
Avec la garde à vue d'une de ses coéquipières, Aminata Diallo, qui dément toute implication à Jean-Michel Rascol.
Oui, Aminata Diallo conteste toute responsabilité dans l'agression de sa coéquipière, Kaira Amraoui. À nouveau interrogée par les policiers de la PJ de Versailles, elle n'a pas souhaité être assistée d'un avocat. Une autre joueuse du club, Sakina Karchaoui, a également été entendue ce matin. Elle partageait le même véhicule que ses camarades, mais avait été déposée chez elle avant l'agression. Au terme de ces auditions, Mademoiselle Diallo sera déférée ou non devant un juge d'instruction, probablement demain matin. L'affaire est commentée aux quatre coins de la planète football et particulièrement en Espagne où les deux joueuses évoluaient encore la saison dernière. Un scandale jamais vu se produit au PSG, écrit le journal AS. Une joueuse engage des malfrats pour blesser une partenaire. Un raccourci saisissant qui en tous les cas glace le club. Le PSG s'est entraîné à huis clos cet après-midi à Bougival alors que sa préparation était annoncée en public. La conférence de presse a été annulée. Les portes des vestiaires seront closes jusqu'au coup d'envoi du match Lyon-Paris Saint-Germain dimanche soir. Jalousie, haine, vengeance ou simple méprise, il n'est en tout cas pas question de tactique. On ne parle pas 4-4-2, Christophe, dans cet avant-match désolant et si particulier.
Oui, c'est clair.
Jean-Michel Rascol, merci.
Dans un instant, l'étranger sur RTL.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
Et avec Marion Calais, le ton qui monte encore un peu plus ce soir entre l'Union Européenne et la Biélorussie.
Oui, au-delà des tensions migratoires à la frontière avec la Pologne, désormais Minsk, qui craint de nouvelles sanctions économiques de Bruxelles pour ses dérives autoritaires, brandit la menace énergétique. Bénédicte Tassar, le dictateur Loukachenko, menace purement et simplement de couper le gaz.
Oui, les vannes du gazoduc Yamal-Europe, plus de 4000 km de tuyaux qui partent de cette région Yamal au nord de la Russie, traversent toute la Russie, continuent en Biélorussie où ça se divise en deux, une partie vers l'Ukraine pour rejoindre la Slovaquie et l'autre vers la Pologne et l'Allemagne. 10% du gaz consommé en Europe sort de ce gazoduc, c'est beaucoup. En France, nous n'en recevons qu'une infime partie. Alors vous l'avez dit aujourd'hui, Loukachenko menace. Alors que nous gardons l'Europe au chaud, il menace de fermer notre frontière. Mais que se passe-t-il si nous interrompons notre approvisionnement en gaz ? S'emporte le président biélorusse dans son palais. Alors déjà, le gazoduc, il appartient à Gazprom, aux Russes, et personne ne croit que Loukachenko y touchera sans l'autorisation de Poutine. Mais la première conséquence, elle peut être sur les tarifs. Une telle menace peut faire augmenter un prix du gaz qui a déjà été été multiplié par 5 l'année dernière.
Les précisions de Bénédicte Tassar. Et ce soir, la chef de l'opposition belarusse estime que Loukachenko bluffe avec cette menace. À Glasgow, dernière ligne droite pour la COP26 et de nouveaux appels à des actes forts de la part du pape, de 200 climatologues ou du patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui évoque des annonces encourageantes mais insuffisantes.
Marie Billon, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à Glasgow et parmi ces petites avancées, cette première, l'Écosse qui a en effet reconnu sa responsabilité vis-à-vis des pays du Sud déjà impactés par le réchauffement climatique.
Oui, Édimbourg a promis un peu plus d'un million d'euros. Alors évidemment, ce n'est pas énorme, mais c'est une première saluée par les pays du Sud, notamment Abdul Kalam Azad, envoyé spécial du Bangladesh.
So I believe.
Ce n'est peut-être pas une grosse somme, mais je pense que ça va avoir comme effet d'entraîner sur ce chemin d'autres pays du Nord.
C'est ce que beaucoup de pays du Sud espèrent. Mais deux autres pays, le Tuvalu et Antigua et Barbuda, ont décidé de porter plainte pour les dégâts occasionnés chez eux par la pollution générée par les nations du Nord. Les Bahamas font partie de ceux qui gardent cette option sur la table, explique Rochelle Newbold du ministère de l'Environnement.
L'action judiciaire est toujours une possibilité. Mais nous ne demandons pas la charité. Personne ne demande la charité. Aucun peuple, aucun pays ne devrait être soumis à des difficultés parce que d'autres sont trop gourmands.
La coopération, c'est le meilleur moyen pour obtenir reconnaissance et réparation. Mais selon les Bahamas, si à la fin du sommet, plus de pays n'ont pas suivi l'exemple de l'Écosse, la COP26 pourrait bien être vue comme un échec.
C'est clair. Marie Billon à Glasgow pour RTL.
C'est un peu le salon de l'agriculture, du savoir-faire français. 100 000 visiteurs attendus jusqu'à dimanche au Parc des Expositions à Paris pour le salon du Made in France. Il a ouvert ce matin, vous y étiez pour RTL, Pierre Herbulot. Déjà beaucoup de monde et des paniers bien remplis pour des visiteurs qui voient en ces achats français un acte militant.
Oui, exactement. Florence vient d'acheter des jeans fabriqués dans la Drôme pour les offrir pendant les fêtes. Sauf que pour elle, ces pantalons représentent beaucoup plus que de simples cadeaux de Noël.
C'est vraiment parce qu'on veut que le territoire ait plus de vitalité, plus de tonus. On achète français parce qu'on a envie que les gens aient des emplois, on a envie de voir de la production et on n'a pas envie non plus, sur le plan environnemental, que les produits qu'on va consommer arrivent de l'autre bout du monde dans des containers qui peuvent être bloqués n'importe quand dans des ports chinois.
Emploi, écologie, mais pas seulement. Entre un stand de croquettes pour chat et un autre de biberon, Juliette est venue acheter des produits français, oui, mais surtout des produits de qualité.
Il faut être honnête, hein. À force d'acheter de la merde, non. Nous, on apprécie la qualité, les bons produits et puis on a vu un stand où c'était comme une sorte de fourchette pour couper les côtes de bœuf. Mais c'était un bijou fabrication, c'était fait à Clermont-Ferrand dans un coffret, puis ça change d'Internet, d'Amazon.
Autant de raisons qui font que les visiteurs sont prêts à dépenser un peu plus d'argent. Eh oui, la qualité a un coût.
Ça se paye. Reportage de Pierre Herbulot au salon du Made in France pour RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Ou comment une carte postale a fait marrer toute une famille et pour cause, elle est arrivée avec 17 ans de retard.
Fallait mettre un timbre.
Imaginez l'étonnement de sa fille quand Simone, 91 ans, l'a remerciée pour sa carte postale. Il a fallu qu'elle la lui montre pour que les souvenirs remontent. Cette carte postée en 2004 à Biarritz, arrivée donc le mois dernier. Rien n'explique pour l'instant comment elle est restée en bon état. Et comment elle a attendu si longtemps pour arriver.
Elle a conservé cette carte postale. Quel temps fait-il, notamment sur les VR de Joux, où habite Simone, visiblement, dans le Doubs, en Franche-Comté? C'est l'une des questions qu'on pourra poser ce soir à Peggy Broche. Mais en tout cas, on va commencer par cette accalmie déjà, c'est bien, près de la Méditerranée.
Oui, ça y est, enfin, demain, le temps sera quand même maussade, bien nuageux, mais des averses. Il restera quelques averses entre la Corse, la PACA, Languedoc-Roussillon, des averses également l'après-midi sur le Pays Basque. Mais franchement, ces averses vont s'atténuer au fil des airs, rien à voir avec ce qu'on a vécu ces dernières heures. Entre Bretagne et Cotentin, une nouvelle perturbation va donner un ciel bien couvert demain matin avec de faibles pluies. Les nuages vont gagner l'après-midi les pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France. Mais partout ailleurs, il fera beau, comme aujourd'hui après dissipation des nombreuses grisailles matinales et brouillard. Les températures, elles seront bien fraîches demain matin avec des petites gelées généralisées au nord dans les terres et les maximales fraîches sur le nord-est. 5 degrés à Strasbourg, 7 à Lyon, 9 à Reims, 12 à Paris, 16 à Biarritz, 17 à Rennes, 19 à Bordeaux et jusqu'à 20 degrés à Toulon.
Merci mille fois, Peggy Broche pour la météo.
La brigade RTL Soir.
À 18h15, la brigade RTL dirigée ce soir par Odile Pouget qui revient avec nous, spécialiste santé RTL. Et ce bilan, Odile, qui laisse donc perplexe hein, sur l'ensemble des personnes hospitalisées durant l'année 2020, il faut bien être précis, 2% seulement des patients étaient donc des patients Covid, Odile.
Oui, 218 000 exactement sur un total d'un peu plus de 10 millions de patients qui sont passés l'an dernier par l'hôpital, que ce soit en médecine, en chirurgie, en obstétrique, en unité de soins de suite pour une rééducation cardiaque par exemple ou orthopédique ou bien des patients encore hospitalisés à domicile. Autre chiffre de ce rapport qui interpelle, les patients Covid n'ont représenté toujours en 2020 que 5% des admissions en soins critiques. Mmh. Des chiffres extrêmement sérieux qui émanent d'un organisme officiel chargé de collecter toutes les informations sur les séjours à l'hôpital et les raisons surtout de ces hospitalisations.
2% Odile, ça fait donc 218 000 patients Covid sur cette première année de crise sanitaire en France. Alors j'insiste un peu peut-être, mais je pense que tous ceux qui nous écoutent ce soir ont envie de savoir, parce que ça paraît pas beaucoup après tout ce qu'on a vu, entendu à la radio depuis le mois de mars 2020, c'est-à-dire les hôpitaux surchargés, des réorganisations dans les soins, des transferts par exemple un peu spectaculaires, ou même des opérations déprogrammées, Odile.
Oui, c'est vrai qu'on peut trouver ces chiffres un peu faibles, mais eux seuls en fait ne permettent pas de mesurer vraiment l'impact de la crise sanitaire sur l'activité des hôpitaux. D'abord, ils ne prennent pas en compte la durée des hospitalisations. 13 jours en moyenne pour les courts séjours pour les patients en Covid. Pour la grippe en 2019, par exemple, c'était deux fois moins. Idem pour les séjours en réanimation qui ont été beaucoup plus longs pour les patients Covid, d'où une surcharge, bien sûr, des services. Par ailleurs, cette pression hospitalière n'a pas été constante tout au long de l'année. Elle a fortement varié au gré des vagues épidémiques, avec des pics de saturation, on s'en souvient. Exemple, 30 000 patients hospitalisés quotidiennement entre fin mars et mi-avril, 6 fois moins pendant l'été, avant une remontée à l'automne. Ce chiffre de 2% donc ne rend pas compte des phases de saturation hospitalière qu'on a tous en mémoire.
Merci mille fois Odile Pouget, service santé d'RTL. Où va la France ? Métamorphose ou déchéance ? Question posée dans le tout dernier ouvrage du sociologue Michel Wiewiórka, qui est notre invité dans moins de 2 minutes maintenant dans RTL Soir.
RTL Soir. Christophe Paco, l'invité d'RTL Soir.
Nous sommes à la fois les héritiers de ce qui a précédé et confrontés à ce que nous avons perdu. Bonsoir à vous, Michel Wiewiórka.
Bonsoir. Je
ne vous présente plus, un sociologue éminent. Où va la France ? C'est une métamorphose, une déchéance qui nous attend. C'est votre dernière édition, c'est votre dernier livre, en tout cas, aux éditions Rue de Seine. C'est un constat, quoi. C'est défaitiste ou c'est quand même optimiste à un moment dans votre livre ?
Bah, écoutez, je me suis dit, toutes sortes de livres déclinistes paraissent, sans arrêt, tout va mal, bon... Il y a des gens qui disent au contraire ça va bien, mais enfin c'est quand même difficile à faire passer. Donc je me suis dit, il faut être nuancé, au moins dans le questionnement. Après, on répond. Mais la question au moins, c'est, on l'ouvre. Est-ce qu'on va dans le bon sens ou dans le mauvais sens ?
La France aujourd'hui est-elle politiquement, vous le dites, hein, politiquement capable de faire face aux grands défis d'aujourd'hui ? Parce que c'est pas simple depuis le général de Gaulle finalement.
Et aujourd'hui, on peut en parler encore plus peut-être que d'autres. Écoutez, je vais vous le dire d'une façon un peu ramassée. Le pire n'est pas certain. Bon, mais le mieux non plus. Et donc, on est dans une drôle de situation politique où on a un chef d'État relativement bien installé, et puis ensuite des extrêmes qui prospèrent surtout à droite.
Oui.
Et sinon, c'est un peu le vide.
Faute de ce président actuel, quelque part.
Alors justement, mon livre, c'est quand même mon livre a une double enquête.
Je parle de politique, hein, bien
voilà,
sûr.
Voilà, mon livre a une double enquête. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'État ? Et donc. Évidemment, ça n'est pas la faute du chef d'État aujourd'hui. Et donc, je remonte jusqu'à la fin, à partir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, dans une première partie, pour montrer justement comment l'État s'est transformé, comment ces transformations ont joué entre l'État proprement politique et l'État administratif, ces gens qui sont là, quel que soit le gouvernement. Et donc, je montre que tout ça, ça s'est quand même beaucoup dégradé, grossi, hypertrophié parfois, d'un côté. Et puis, d'un autre côté, je montre que sur la longue durée, les contestations... les mouvements sociaux, les mouvements culturels qui poussent à la transformation se sont aussi beaucoup transformés et d'une certaine façon affaiblis.
Ça veut dire que la société civile a plus de poids aujourd'hui et qu'il y a des voix qui s'élèvent à l'image d'un Éric Zemmour aujourd'hui qui n'est pas encore candidat ?
Alors, ça veut dire surtout que les choses se fragmentent et les choses s'articulent mal. D'un côté, dans la société civile, il y a des choses très positives. Moi, je suis du côté des gens qui disent le changement climatique, les relations hommes-femmes, un certain nombre de grands problèmes qui nous font rentrer dans un nouveau monde.
Vous êtes dans le wokisme, comme on dit aujourd'hui ?
Ah non, non, non.
Le côté éveillé, non.
Non, non, parce que le wokisme, c'est, si vous voulez, les gens qui débloquent. Dans le discours courant,
c'est l'égalité raciale, voilà. Justice pour tous.
Le wokisme, qui est exagéré, c'est un truc qu'on importe des États-Unis. Mais les vrais cas, il n'y en a pas tant que ça, c'est de l'excès. Donc laissons ça de côté. D'accord. Donc on est dans une société qui souffre, qui se transforme, qui a des potentialités, et en même temps, des lourdeurs, de la bureaucratie, et surtout un système politique carent. Qui ne répond pas aux attentes des Français.
Je reviens sur ma question quand je parle d'Éric Zemmour, par exemple, aujourd'hui, qui fait l'objet de beaucoup d'attention, qui est très médiatique par la force des choses, au milieu d'où il sort, par exemple d'RTL ou de CNews. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une parole qu'on écoute beaucoup.
Et oui, et alors ça, c'est évidemment...
C'est un changement, quand même.
C'est un changement. Et alors, moi, je suis un universitaire, et je peux vous dire que dans le monde universitaire, on est quand même un peu stupéfait. Parce qu'en matière historique, les universitaires nous disent, ils racontent n'importe quoi. Ils racontent n'importe quoi. Et donc le problème, c'est pas tellement qu'ils racontent n'importe quoi, c'est qu'ils puissent raconter n'importe quoi avec un tel succès. Et donc ça, c'est quelque chose qui frappe beaucoup mon univers professionnel.
Ouais. Et c'est donc, pas là la métamorphose aussi, peut-être pour ce pays, je force le trait.
Non mais alors, on est rentré dans une époque où les blogs, les réseaux sociaux, Internet, tout ça permet à beaucoup de monde de communiquer, de discuter, c'est très bien. Mais ça permet aussi, du coup, de faire circuler les fausses nouvelles, les fake news, comme on dit, de faire circuler le complotisme, l'idée. Bon, et donc, ça permet le meilleur et le pire. C'est pour ça que mon livre, il est compliqué, il est nuancé, tout ne va pas uniquement dans un sens.
D'accord, mais dans votre conclusion, vous dites le moment n'est-il pas venu de préparer des jours heureux, par exemple.
Alors,
vous êtes très positif, finalement.
Écoutez, il faut être positif. Tout n'est pas vraiment... on n'est pas entièrement...
On vit mieux, par exemple, aujourd'hui.
Mais écoutez, on vit mieux, on vit plus longuement, on vit mieux et longtemps et en bonne santé, en plus, beaucoup plus qu'avant. Et donc, simplement, tout ceci se prépare. Et ce qui me frappe, vous savez, c'est des expressions qui nous ramènent à la Seconde Guerre mondiale, au Conseil national de la Résistance. Le programme de la Résistance, c'était l'annonce de jours heureux, justement.
Bien sûr.
Et donc, ces gens-là ont préparé les jours heureux. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de discussions pour se projeter vraiment vers l'avenir. Des gens défendent, à juste titre, leurs intérêts, leurs positions,
comme les gilets jaunes,
leur retraite, le coût de l'essence.
Le pass sanitaire,
tout ça, en mérite discussion, tout ça est respectable. Moi, là-dessus, je n'ai pas d'état d'âme. Mais c'est pas avec ça qu'on invente la société de 2040 ou 2050.
Michel Vievorka, s'il fallait en 30 secondes changer quelque chose dans l'organigramme, vous parlez d'un retour au septennat dans votre livre à un moment par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire de concret aujourd'hui pour essayer de se dire on va tous ensemble vers un même destin, c'est-à-dire meilleur?
Moi, je pense qu'on a absolument besoin de réouvrir le système politique. Je vous dis pas du tout que je suis nostalgique de la vieille gauche ou de la vieille droite, c'est pas ça. Mais si on n'a pas une gauche et une droite à réinventer, on n'a pas de débat public. Et donc, on a un pouvoir...
Ça, sur nos gènes, nous, à nos âges, vous voyez ce que je veux dire.
Ben oui, bien sûr.
Oui.
Bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On a finalement un chef d'État qui décide verticalement de haut en bas. Parfois, c'est bien, parfois, c'est moins bien. Mais enfin, ça se passe comme ça. Et il n'y a pas le débat public qui permet de faire remonter les attentes de la société. Les gens veulent ceci ou veulent cela, il y en a qui sont d'accord, qui
plus
sont pas
se
d'accord.
Projeter, vous dites.
Voilà. Oui. Pour se projeter, il faut qu'on reconstruise un système politique.
Métamorphose ou déchéance, c'est passionnant. On aurait parlé des heures, mais il faut lire le livre, Michel Vievorka. Rue de Seine édition, Où va la France ? C'est vraiment passionnant. Quand je dis Où va la France, ça me rappelle Éric Brunet qui sera avec nous tout à l'heure à 19h15. Il connaît bien ce titre sur RTL jusqu'à 20h pour débattre et refaire le monde.
Saluez-le de ma part.
Mais avec grand plaisir. Merci Michel Vievorka d'être venu avec nous en studio aujourd'hui en ce 11 novembre. Dans un instant, le rappel des titres. Et puis après, Julien Molcou avec nous pour Laissez-vous tenter dernière. Un invité exceptionnel au téléphone. On va lui passer un petit coup de fil. Et sur la route en ce moment, c'est Patrick Bruel. À tout de suite.
RTL Soir.
Bonne fin de journée à toutes et à tous, il est 18h30.
RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
Et Marion Calais qui vous rappelle les principaux titres de l'actualité.
L'adieu au dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, est entré cet après-midi dans la crypte du mémorial de la France combattante. Emmanuel Macron a salué le dernier des chevaliers de la liberté. Un taux d'incidence en hausse de 44% la semaine dernière en France. La reprise épidémique se confirme et c'est dans ce contexte que l'Europe a approuvé aujourd'hui la mise sur le marché de 2 traitements par anticorps. Une plainte contre X de la Fédération française de foot annoncée ce soir pour des tentatives tentative de corruption avec des messages envoyés à des joueuses de la première division féminine promettant une somme d'argent en échange de matchs arrangés.
Merci Marion, à demain à 18h pour RTL Soir. Le temps, Peggy Broche, ça s'arrange un petit peu. La Méditerranée, je ne sais pas encore, c'est là où ça pleut encore un tout petit peu, autrement c'est soleil, c'est ça?
Exactement, d'accord. Du soleil sur les trois quarts du pays, mis à part, comme vous l'avez dit, sur la Méditerranée, sur le Nord-Ouest. C'est vrai que le temps sera encore maussade hein, près de la Méditerranée, avec encore quelques averses, mais beaucoup plus éparses et plus rares au fil des heures. Une nouvelle perturbation va donner un ciel couvert demain entre la Bretagne et le Cotentin avec quelques gouttes. Les nuages vont gagner également les pays de la Loire jusqu'au nord en journée. Tout ça sous des températures froides au nord dans les terres le matin, des petites gelées généralisées et les maximales de 5 à 9 degrés sur le nord-est, 10 à 17 degrés ailleurs et jusqu'à 20 près de la Méditerranée.
Merci Peggy Broche, à tout à l'heure.
Laissez-vous tenter, dernière.
J'adore. Bonsoir Julien Molko.
Bonsoir Christophe Paco, bonsoir à tous.
Toujours en balade, toujours en vadrouille, vous étiez à Montpellier comme on dit si bien.
Ouais, je suis allée à Montpellier, figurez-vous, pour voir Patrick Bruel sur l'une de ses dates de tournée.
Quoi. Oui,
bah ouais, je voulais comprendre et je voulais voir de mes yeux ce qui rendait le public si heureux. Et ça y est, j'ai compris, son spectacle en acoustique est formidable.
On t'attendait simplement. Faut pas laisser.
Ce concert commence comme un conte. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 15 ans qui commence à écrire quelques lignes dans un cahier, qui commence à rêver de musique, entouré d'une bande de copains. Patrick Bruel nous raconte sa vie, la déroule, pas forcément dans le bon ordre, et à travers ses chansons. Alors il chante en français, en espagnol et même en portugais. Pour évoquer Patricia, sa fameuse première petite amie, celle pour laquelle il va aller s'installer à New York et rencontrer Gérard Presgurvic. C'est drôle, c'est tendre, et on a même le plaisir de découvrir ou de redécouvrir certaines chansons moins connues de son répertoire, et pourtant si belles.
Vieille, c'est de la musique vieille, je sais. Chopin, prise unique, Mozart de bazar, c'est de la vieille musique, du blues bizarre.
Alors écoutez, vraiment, croyez-moi, le public est enchanté. Les gens, après 2h30 de concert, ne voulaient pas le laisser partir. Ils en demandaient encore, même moi, lundi soir à Montpellier. Mais j'en aurais bien chanté une ou deux de plus.
Bah oui.
D'ailleurs, mais on va en parler directement avec
vous. Vous voulez chanter ?
Bonsoir Patrick Bruel.
Mais non, Patrick est avec
vous. Oh, génial. Bonsoir Julia, bonsoir Christophe.
Salut Patrick.
Merci beaucoup Patrick. Salut. D'être en direct sur RTL depuis Gap, ouais, c'est
merci.
Ça ?
Merci à vous. Depuis Gap, oui, on a fait une route magnifique et très ensoleillée entre Montélimar et Gap tout à l'heure. C'était très beau.
Bon alors, qu'est-ce qu'elle a de différente, cette tournée acoustique, par rapport à toutes les tournées que vous avez déjà faites par le passé?
Ben, c'est une tournée plus intimiste à la fois, plus de proximité, plus de partage, et toute la palette des sentiments y passe, que ce soit des moments très tendre, très doux, comme vous avez pu montrer, ou des moments beaucoup plus enjoués, ou beaucoup plus pop,
ah bah oui,
beaucoup plus rock, mais toujours dans un son acoustique. C'est plus, ouais, très festif, et à la fois, il y a un vrai dialogue qui s'installe avec de l'émotion, avec de l'humour, avec de l'interrogation, et c'est un peu né à partir des stand-up at home que j'ai fait pendant le confinement, ces petits spectacles que je faisais sur Facebook, où j'ai vu qu'au bout d'un moment, on avait fait quasiment plus de 20 millions de vues, et je me suis dit, autant de gens qui sont rentrés dans mon salon, à moi peut-être de prendre ma guitare et d'aller à leur rencontre. Et j'ai pris, voilà, et je vais dans des salles un peu plus petites que celles que j'ai l'habitude de faire, avec un peu moins de monde, et un spectacle un peu différent. Là, évidemment, les salles sont petite, il y a pas place pour tout le monde, mais on arrive à pousser les murs et à passer des soirées, ouais, absolument extraordinaires.
Et puis vous chantez vos classiques, mais vous chantez aussi plein de chansons auxquelles on s'attend pas toutes de vous d'ailleurs.
Ah.
Je veux pas trop divulguer, mais vous chantez un peu de Trainet, un peu de Barbara, un peu de, hein, on est d'accord.
Oui, il y a
plein de surprises.
Je passe par tous, mais enfin beaucoup des émotions que j'ai reçues pendant quand j'étais petit, quand j'étais moins petit, voilà, et ça pourrait aller, et puis ça peut changer, ça peut aller de Brassens à Brel en passant par Barbara, mais c'est aussi Gérard Lenormand à qui je rends un petit hommage, et je suis touché de voir à quel point les gens s'approprient les chansons et se les approprient à travers mon histoire. Je pense, enfin j'ai l'impression que je raconte un peu la leur aussi.
D'accord. Mais vous savez comment est habillé Julien Molko? soir, elle avait un blouson deux fois trop grand pour elle.
Trois fois même.
Ah non, mais c'est une chanson Patrick Bruel, voilà, c'est tout.
Mais n'importe quoi.
Et, bon, j'espère qu'elle vous regardait comme ça.
Ah, génial. Vous connaissez vos classiques.
Merci infiniment Patrick Bruel pour ce petit coup de fil en direct sur RTL. Au milieu des balances pour ce soir, je rappelle donc que vous êtes en tournée et vous dites que vous êtes dans des petites salles, mais vous avez quand même clairement augmenté les jauges. Vous serez à Rennes, par exemple, mardi prochain. Vous serez à Nantes les 17 et les 18 novembre prochain.
Sur Rennes, sur Nantes, sur Nice et sur Marseille, on a agrandi les jauges parce que ça nous le permettait, parce que c'est formidable de retrouver le chemin des salles, des concerts, et les gens jouent juste le jeu du pass sanitaire et ça permet à tout le monde de rentrer et de passer un moment extraordinaire. Et puis comme Paris, le casino de Paris est complet, on a prolongé pour le mois de juin prochain, on sera au Palais des Sports de la Porte de Versailles.
Génial. On viendra. Au Dôme de Paris. Merci infiniment et allez-y, vous allez passer une très très bonne soirée. À bientôt Patrick, merci
Attention.
Beaucoup.
3, et merci pour vos mots, Julien. Merci. Salut Christophe.
Salut Patrick. Rendez-vous sur la place des grands hommes et des jeunes filles ce soir avec toute l'équipe de Cyprien Ciné pour défaire le monde. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Comme tous les soirs, 18h40 jusqu'à 19h avec Laurent Tessier.
Bonsoir à tous.
Et l'inestimable Anaïs Bouissou.
Bonsoir.
Inestimable.
J'aime bien.
Son côté économique, vous savez, service économique et social d'RTL.
Absolument. On remercie Marcy Alliou de nous l'avoir prêté.
De ce prêt gratuit.
Sans option d'achat.
Même pas une petite éloi, rien. On défait le monde. Comme chaque soir, c'est juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.